C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
À l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, Kate Middleton, la princesse de Galles, a publié une photo d'elle avec ses enfants. C'était spécial parce que ça fait des semaines et des mois qu'après une opération, la princesse de Galles est absente de l'œil public. Donc là, c'est une façon de dire, écoutez, je suis revenu, je vais bien. C'est une photo avec les enfants. Petit problème, la photo a été retouchée. Shocking! On va aller rejoindre Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est à Paris, incidemment. Salut Philippe!
Salut Patrick, ça va bien?
Moi, ça va bien, mais avant qu'on parle du vif du sujet, Dieu sait qu'il est vif, oui. Qu'est-ce que tu fais à Paris?
J'essaie de faire rire les Parisiens puis de pas faire honte au Québec. Pour l'instant, ça se passe al dente, je te dirais. Mais pour vrai, si je suis vraiment là pour des spectacles, et donc je suis là en attendant, là, je profite de la ville, puis j'essaie de démystifier ce qui fait rire les Parisiens.
C'est pas évident?
Ben, on m'a dit, on m'a dit, je cite, en arrivant par le comité d'accueil qu'on appelle les gardes frontières, j'espère que votre action sera pas un handicap. Apparemment, je me qualifie pour les Paralympiques juste avec mon accent.
Bon, OK.
C'est à l'image du reste c'est à l'image du reste du périple pour l'instant.
C'est quoi? On va s'en faire un autre segment où tu vas juste nous parler de tes aventures parisiennes. Mais là, je suis convaincu que tu regardes de l'autre bord de la Manche et tu te demandes ce qui se passe là-bas. C'est quoi l'histoire de la photo retouchée de la princesse de Galles?
Ben, en fait, tout ça commence par une panique. En ce qui me concerne, une panique personnelle, parce que c'est comme... C'était-tu la fête des mères hier? Non, en Angleterre, j'avais pas acheté de fleurs pis tout, mais en Angleterre, c'était hier la fête des mères. Okay. Et en fait, c'est que, comme t'as si bien expliqué, puis dans le fond, c'est ça, c'est que, dans le fond, Kate, elle a été opérée, mais elle a été opérée en janvier. Sa dernière apparition publique, c'est le 25, puis le 20. En fait, c'est la plus longue période qu'on l'a pas vue depuis à peu près qu'on la connaît, c'est-à-dire il y a comme 15 ans. Et donc là, tout le monde commence à s'inquiéter de ce qui se passe avec Kate. Sauf que une photo un peu prise par un paparazzi le 10 mars, le 4 mars est sortie. Elle était assise à côté. Et là, c'est pas une photo officielle. Puis là, ça a fait commencer à faire sortir plein de rumeurs sur les théories du complot. Est-ce qu'elle est une reptilienne? Elle serait peut-être morte? Elle n'existe pas? Bon, tout ça. Et là, pour atténuer les rumeurs et les éteindre, le palais de Kensington, c'est-à-dire, on va dire l'équivalent de Buckingham Palace pour Kate et William, a sorti une photo qui serait prise apparemment par William. Et le problème étant, comme tu l'as si bien résumé, c'est que on dirait que c'est quelqu'un qui est non-voyant qui a fait du Photoshop avec Paint parce qu'il y a des gros problèmes avec les cheveux qui sont plus plats que les cheveux d'un chanteur emo des années 2000. Il y a un problème de zipper aussi. Bon, bref. Et là, en fait, tout ce qui était pour faire taire les rumeurs fait juste exploser les rumeurs et les théories du complot. Et là, on est rendu à dire qu'en fait, la maladie de Kate est encore plus importante que le cancer du roi Charles. Que le cancer du roi Charles, en fait, c'est une opération pour cacher la vraie maladie de Kate. Et finalement, tout ça, en fait, c'est comme le gars qui dit à sa blonde, c'est pas ce que tu penses avant même qu'elle dise qu'est-ce qui se passe. Puis, en fait, c'est vraiment une espèce de d'échec total de marketing et d'opération de communication, si bien qu'elle est obligée de faire croire que... Et c'est ça aussi l'autre défaut, c'est que là, elle a dit, elle a fait une lettre d'excuse, qu'elle a dit, ben moi, comme n'importe quel amateur, j'utilise des programmes, tu sais, de pour toucher les photos. Je sais pas qui fait ça tant que ça dans la vraie vie, mais apparemment, les photographes amateurs font tout ça. Et le problème étant que comme ça a été retouché, ce qui devait être une photo officielle à partager dans la presse, ça n'a pas pu être retouché, ça n'a pas pu être partagé. Ce qui fait que la presse a retiré la photo. Et là, double scandale, parce que là, ça veut dire que qu'est-ce que la famille royale manipule encore?
Oui, c'est ça.
Et tout ça est un échec, en fait, finalement.
Parce que Philippe, bon, il y a, les cheveux sont flous, je pense qu'il y a une main qui est comme pas vraiment à sa place ou qui a la bonne proportion.
Exact.
Mais, je dois te dire, la fermeture éclair modifiée. On sait que... On sait où passe la fermeture éclair. Ça passe du cou jusque en bas du nombril. Mais on sait qu'elle a été opérée au ventre.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose au bon peuple?
Moi, là, c'est tout ce que je pense, Patrick, c'est que oui, puis je sais pas c'est quoi. Fait que là, j'essaie de m'incruster dans la haute société parisienne, c'est ça ma double mission, pour ensuite m'incruster dans la haute société britannique. Mais l'autre détail que tout le monde a remarqué, c'est qu'elle porte pas son anneau de mariage non plus dans la photo. Oh. Fait qu'il y a beaucoup de « qu'est-ce qui se passe et pourquoi? » Et comme la famille royale nous habitue à un silence, ben là, en fait, pour une fois, ils sont dans une vraie crise, je pense, médiatique, parce que ils seront forcés à publier ou bien la photo originale qui risque de révéler des trucs, ou bien faire une déclaration pour expliquer le pourquoi de « ça a pris 14 heures à dire que j'ai mal utilisé Photoshop ». Fait que finalement, tout ce qu'ils ont voulu faire, ils seront obligés de se rétracter pour atténuer puis éteindre réellement la crise actuelle. Mais là, on s'entend, quand c'est une crise, là, ça reste une crise de Photoshop par du monde qui porte une couronne. Fait qu'on peut prendre notre gaz égal puis dormir en paix ce soir, OK? Tout le monde, là, je veux juste pas que le Canada panique ce soir, c'est tout.
OK, parle-moi de Charles, parce que Charles a eu des problèmes de santé. Je pense que c'est un problème Est-ce que c'est un problème de cancer de la prostate?
Oui, c'est un problème de cancer de la prostate. Mais là, contrairement à Kate, c'est ça aussi qui est spécial. C'est que Charles a été très ouvert sur sa maladie. On a parlé de la prostate royale et tout ça, puis on a quasiment eu, c'est à peine si on n'a pas eu la vidéo du test. Puis, en fait, Charles est très ouvert sur sa maladie. Il a été vu en public depuis le début de ses traitements, alors que Kate, elle est complètement fermée. Fait que c'est pour ça qu'on commence à se dire, il y a quelque chose de louche. Et Charles, en fait, suit les traitements. Là, aujourd'hui, il y avait une succulente occasion à Westminster Abbey où toute la famille, le gratin de la famille royale s'est réuni. Il n'y avait pas Kate, il n'y avait pas Charles, il y avait Camilla, par contre, et William. Personne n'a parlé. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que là, tu as deux membres majeurs de la famille qui sont obligés d'être un peu en retrait à cause de problèmes de santé. On s'attendrait à ce que le roi, avec son cancer et son âge, soit plus en retrait, puis aussi l'espèce de discrétion royale, plus que la princesse de Galles. Et c'est le contraire. Et c'est là aussi où il y a une anomalie par rapport à d'habitude, parce que généralement, les plus jeunes, c'est moins grave et tout. Et là, on commence à avoir peur pour Kate, en fait. Et Charles, ben, à cause de Kate, il passe un peu dans le beurre. Fait que c'est pour ça qu'on commence à penser à une espèce de théorie manipulation aussi à travers ça.
À la place de Charles, peut-être qu'il pourrait passer, publier une photo, photoshopper elle aussi, puis causer un scandale équivalent pour faire parler de lui.
Oui, ben je pense que la prostate, c'est quand même moins photogénique
qu'une
photo de famille.
On n'en demande pas tant.
Non, quoique moi, je prends toutes les photos de la famille royale, y compris la prostate royale.
Bon, je pense qu'on est allé au bout de nos sujets royaux. Hey, Philippe, je vais te réinviter très bientôt. Je veux que tu nous parles de tes aventures parisiennes.
Ça sera avec grand plaisir. Je prends des notes à tous les jours, t'inquiète pas.
C'est au loin du bois de Boulogne, OK?
Parfait.
OK, bye!
Ouais, c'est promis, bye!
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Les images qui nous proviennent d'Haïti sont à briser le cœur. Encore une fois, le pays est livré à l'anarchie. Il n'y a plus vraiment de pouvoir politique. Et les gangs criminalisés qui sèment la terreur et qui réclamaient le départ du premier ministre Ariel Henry ont eu raison. Le premier ministre qui a annoncé qu'il allait démissionner dès qu'un conseil de transition allait nommer un gouvernement en place. Donc, il y a vraiment des images épouvantables et les Haïtiens sont en train de souffrir. Les pays des Caraïbes se sont réunis en sommet d'urgence à Kingston, en Jamaïque, le Canada, les États-Unis, la France et des représentants de l'ONU étaient là. L'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Ray, a pris part hier à la réunion d'urgence. Il est au bout du fil. Monsieur Ray, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Monsieur Ray, vous étiez en Haïti il y a quelques mois. Est-ce que vous entrevoyez à court terme une stabilisation possible d'Haïti?
Oui, c'est possible. On parle toujours de possibilités, il n'y a pas de garantie. C'est difficile et c'est un moment très, très difficile pour le pays. Et c'est aussi un moment de choisir parce que il faut établir un processus qui a l'appui de tous les partis politiques et qui peut créer la possibilité des élections. Il faut avoir un gouvernement, disons, transitoire qui a effectivement la capacité de répondre à la situation et les obligations internationales de d'Haïti. Alors, je crois que c'est important de reconnaître la nature du problème, mais c'est important aussi de voir où sont les possibilités du changement. Et c'est pourquoi le Canada a effectivement appuyé, participé dans les discussions pour trouver des solutions.
Monsieur Ray, le Kenya allait envoyer 1000 policiers pour aider à stabiliser Haïti. D'abord, et là, on sait que ça a été mis sur la glace parce que les autorités kenyanes disent, il n'y a pas de gouvernement en Haïti, on ne va pas envoyer des policiers. Pourquoi est-ce que c'est le Kenya qui envoyait 1000 policiers?
Eh bien, vous devez poser la question au Kenya. C'est pas moi. Mais je pense que je ne peux pas dire à mes collègues kenyans, je peux dire tout simplement, il y aura un gouvernement. Et le premier ministre, monsieur Henry, est toujours le premier ministre. Il a dit que je vais démissionner au moment où il y a un conseil qui était établi. Mais la réalité de la situation, c'est que le parti politique a insisté sur l'importance du changement et on dit oui, ok, on dit, on accepte, mais en même temps, on doit dire que la stabilité est très importante. C'est pourquoi les partis politiques ont accepté la résolution du Conseil de sécurité sur la question de l'intervention internationale. Alors, il n'y a pas de partis qui vont participer dans le gouvernement qui sont contre n'importe quelle participation de n'importe où. Et il faut se souvenir, c'est une mission multinationale. Naturellement, le Kenya, c'est important, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont importants aussi.
Mais il y a eu une force de stabilisation de l'ONU. Il y avait des casques bleus, je me rappelle les avoir vus là-bas, là, des policiers de l'ONU. Il y a des militaires qui sont allés, des policiers canadiens, pendant des années. Est-ce que aujourd'hui, on peut faire le constat de l'échec de ces expéditions internationales en Haïti?
On peut dire que, effectivement, ça n'a pas eu l'impact permanent qu'on cherchait. Et je crois que c'est pourquoi le Canada a décidé de concentrer nos efforts sur la question de la police nationale haïtienne, le PNH. Et c'est pourquoi nous avons continuer notre travail avec la police, qui font un job important dans une période très, très difficile dans la vie d'Haïti. Mais si vous dites que les autres n'ont pas marché, le problème, c'est pas que les missions n'ont pas marché, c'est que la situation de sécurité, effectivement, a complètement détérioré. Et ça, c'est le problème qu'on a. C'est pourquoi le PNH lui-même a demandé de nous et des autres des efforts pour leur aider. Et c'est ce que le Canada est en train de faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une force de mission de sécurité et de stabilité.
Si un gouvernement et si le Kenya envoie ses 1000 policiers, vous qui êtes allé au pays, M. Ray, est-ce que c'est le début d'une stabilisation du pays?
On espère que oui. Et on pense que c'est pas une question de ça, mais c'est une question de dire que s'il y a, et j'insiste sur ce point, Patrick, parce que vous continuez de dire les 1000 policiers kenyans, oui, on a besoin de la participation de Kenya, mais c'est une force multinationale. Il y a une volonté de la part du président du Bénin de participer. Il y a les voisins d'Haïti, les gens de la Jamaïque, les gens de Belize, les gens venant des Bahamas qui vont participer dans une force qui va aider aussi. Alors, on est en train de discuter effectivement, avec nos amis américains et les autres, comment est-ce qu'on peut pousser les choses? Et c'est exactement ce que nous allons continuer de faire.
Est-ce qu'il est possible, M. Ray, qu'il n'y ait rien à faire pour aider Haïti?
Non. Non. Je ne peux pas accepter la notion que quand vous voyez quelqu'un qui est troublé, qui a des difficultés, qui effectivement est en grande difficulté, je ne suis pas quelqu'un qui pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'ignorer le problème. On ne peut pas ignorer le problème. On doit répondre.
En terminant, expliquez aux gens qui nous écoutent pourquoi c'est important pour la communauté des pays nord-américains d'aider Haïti à se stabiliser.
Parce que la stabilité de la région dépend de la stabilité de chaque pays. Dans le monde où nous vivons, s'il y a un point faible dans la stabilité, la sécurité, eh bien, c'est là où les gangsters et les autres vont attaquer. Et c'est important de dire qu'on peut pas, nous ne pouvons pas nous isoler de ces problèmes. Nous devons accepter que nous avons des responsabilités, non pas de résoudre le problème, parce que la responsabilité fondamentale, c'est la population haïtienne qui doit répondre. Mais nous devons essayer d'aider, c'est tout. Et du point de vue humanitaire et du point de vue de sécurité, je pense que l'isolation qui est prêché par quelques-uns, c'est jamais une bonne idée. Parce que nous sommes affectés par tout ce qui se passe dans le monde.
Merci d'avoir pris quelques minutes, M. Ray. Je vous souhaite une bonne fin de journée à Kingston, en Jamaïque.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Je suis là, à New York.
Ah, vous êtes à New York? OK, je pensais que vous étiez à Kingston. Parfait. Merci de nous avoir parlé.
Non, j'ai fait mon boulot. Écoute,
vous étiez à Kingston hier.
Super vacances, moi.
Merci Salut. Beaucoup. Salut, à la prochaine. Donc, c'est Bob Ray, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Il a été dépêché il y a quelques mois dans une mission là-bas en Haïti. Il a fait des recommandations au gouvernement canadien.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Oui, c'est la chronique de Pierre-Yves, mais on a décidé de faire une chronique commune, Philippe Quentin et Pierre-Yves McSween, pour décortiquer le sixième budget d'Éric Girard. C'est un déficit historique, 11 milliards de dollars. On va écouter le ministre des Finances.
Oui, un déficit qui est élevé, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Et j'aimerais vous suggérer que le déficit est gérable et qu'on va s'en occuper, et je m'y engage personnellement.
Philippe Quentin, je vais commencer avec toi. 11 milliards, est-ce que ça fait mal au gouvernement? Le chiffre frappe l'imaginaire, mais peut-être que ça évite une certaine austérité aussi.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas l'impression que le gouvernement va en payer un prix politique. 11 milliards de dollars, oui, c'est beaucoup d'argent, mais on est habitué collectivement à des déficits. On est habitué à des déficits importants. Je pense que le ministre Girard, là, malgré toute son histoire avec les Kings de Los Angeles, là, qui seront en visite à Québec, où il a perdu un petit peu de sa superbe avec ça, je pense qu'il demeure néanmoins crédible aux yeux des Québécois. Et quand il arrive comme ça en conférence de presse, là, ça a été avant son discours du budget à l'Assemblée nationale, un petit peu plus tôt aujourd'hui, et qu'il dit que c'est gérable, je pense que de façon générale, les gens vont le croire, parce qu'il a prouvé au fil du temps, c'est quand même son sixième budget, que ses prévisions budgétaires, généralement, puis ce qu'il annonçait, généralement, c'est à peu près ça qui s'est produit. Maintenant, là, il y avait un contexte extrêmement difficile pour lui. C'est un contexte où on ignore où on s'en va, notamment avec les taux d'intérêt. Ouais. Alors aujourd'hui, par exemple, comment commence la journée? Ben, ça commence avec des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été supérieurs à ce à quoi on s'attendait, légère hausse. Alors là, tout de suite, on s'attend à ce qu'aux États-Unis, la baisse des taux d'intérêt, ça survienne peut-être un petit peu plus tard qu'au printemps. Si c'est le cas aux États-Unis, Patrick, qu'est-ce que tu penses qui va arriver au Canada? Ça va être à peu près la même chose. Donc, il est dans un contexte difficile, M. Girard. Et moi, dans cet environnement-là, je trouve qu'il s'est débrouillé correctement.
OK. Pierre-Yves, 11 milliards de déficit, est-ce que ça inquiète le comptable en toi?
Première Premièrement, on va parler de comptabilité créative parce que c'est 11 milliards après un versement au fonds des générations de 2,2 milliards, une provision pour éventualité de 1,5 milliard. Donc, je te ramène à des chiffres qui sont plus autour de 7,2, 7,3 en partant.
Okay.
Donc, au niveau comptable, on ajoute, on amplifie le déficit par des mesures de prudence. Et donc, pendant 5 ans, on va prendre une provision pour éventualité de 1,5 milliard qui va donner toute la latitude au gouvernement de jouer sur cette variation-là. Parce que ce n'est pas lié aux dépenses actuelles, c'est lié à des éventualités de variation d'hypothèses. Donc, oui, historique à 11 milliards, mais je t'amènerai aussi en temps de pandémie où est-ce que finalement le gouvernement du Québec avait bien réagi en laissant Justin Trudeau dépenser et en patchant les nids de poule. Et ça a permis au gouvernement du Québec d'économiser en laissant Trudeau dépenser dans ce temps-là.
OK. Je veux que tu nous parles du ratio dette-PIB, déficit-PIB. Parce que là, ce que le ministre dit, c'est, écoutez, oui, c'est un gros déficit, 11 milliards, mais quand on met ça à côté du produit intérieur brut, ben, c'est plus modeste que c'était il y a quelques années.
Oui, mais faire attention aussi, c'est qu'à l'époque de M. Létard, c'était vraiment le but de réduire la dette sur PIB parce que, dis-toi qu'il y a la province qui en prend, il y a le fédéral qui en prend, il y a les municipalités qui en prennent et nous, personnellement, on en prend aussi de l'endettement. Donc, tu peux pas dire on va s'endetter à 100%. Faut que tu laisses de la place pour tout le monde. Donc, on avait baissé de 2017 à 2020, il y a eu la pandémie, on a remonté et là, on retourne à l'époque pré-pandémique, à peu près. On est à peu près au même stade en prévision en 2025 qu'on était en 2020.
Mais quand tu dis au même stade, tu parles
ratio de dette sur PIB.
OK, parfait. Fait que ça se ressemble.
Ça se ressemble, mais le but, c'est de baisser. Donc, on a perdu notre rang d'aller. T'sais, on était vraiment sur une pente avec une pente négative assez accentuée. Et à cause de la pandémie, on a remonté. Et là, on veut redescendre. Et c'est ça qu'on dit. Parce que les agences de notation, tu veux pas qu'ils se retrouvent à te décoter, que ton endettement te coûte plus cher, puis qu'après ça, une portion de ton budget soit augmentée au service de la dette parce que tu payes trop d'intérêts.
OK. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que ça va être la réaction des agences de notation, justement.
Pour l'instant, le gouvernement dit Moody's, Standard & Poor's, ça va rester stable selon leurs expectatives parce que le gouvernement annonce un signal qu'il y aura des compressions. Maintenant, est-ce que ça va ressembler comme la révision de la fiscalité de M. Godbout qui n'avait jamais été exécutée? Est-ce qu'on va faire la même chose avec les compressions de l'État? C'est à suivre pendant la prochaine année.
OK, on va écouter une deuxième clip du ministre des Finances, Éric Girard, à propos de la pandémie, justement.
La pandémie nous a laissé des impacts permanent dans le réseau de la santé. Alors, je l'ai dit, là, je l'ai déjà dit plusieurs fois que les finances publiques m'avaient été remises en bon état. C'est mon intention de remettre les finances publiques en excellent état.
Philippe, t'as grandi politiquement à une époque là où faire un déficit, c'était quasiment un péché. Quand Jean Chrétien est arrivé au pouvoir, quand le Wall Street Journal nous a quasiment traité le Canada d'un état du tiers-monde parce qu'on avait des déficits endémiques, il y a eu une correction de la classe politique, ça inclut le Québec. Là, on retombe dans cette époque où il y a des gros déficits. Politiquement, c'est-tu plus jouable?
Moi, je pense que oui, parce que quand on regarde le niveau d'endettement du Québec et du Canada par rapport aux autres démocraties occidentales, là, puis qu'on évoque les ratios, le Canada et le Québec continuent de bien se situer. Là. On n'est pas dans les dernières classes. Alors, j'ai pas l'impression que c'est inquiétant. C'est sûr qu'au niveau fédéral, puis on le saura au budget du mois d'avril, ça semble un petit peu plus hors de contrôle. Mais au Québec, je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu là, de débordement. Il en reste pas moins, Patrick, que quand tu regardes ce budget-là aujourd'hui, c'est un budget qui est sans éclat. T'sais, je pense pas que les gens, par exemple, qui nous écoutent, là, ils peuvent accrocher sur un élément puis dire, hey, wow, as-tu vu dans le budget, il y a telle affaire. Il n'y a pas de grand chantier. T'sais, les budgets souvent qui ont marqué l'imagination, c'est quand il y avait de grandes initiatives, des idées nouvelles, par exemple. Là, il y avait un paquet de secteurs, à mon avis, où on aurait pu potentiellement faire des annonces qui auraient un peu stimulé l'intérêt. Ben très certainement le logement c'est numéro un. Le logement on annonce des choses sur le logement étudiant, mais on s'en tient jusqu'à maintenant à ce qui a été annoncé là avec le fédéral, le 900 millions de chaque côté, mais il y a rien de nouveau. Transport collectif, on bouge pas vraiment non plus. Relancer l'économie, il y a pas de mesures encore une fois qui sont phares dans tout ça. On en appelle plutôt à avoir un contrôle des dépenses autant dans les ministères que pour les sociétés d'État. Alors, tu sais, il n'y a pas de éclat. C'est un budget qui est absolument sans éclat. Le gouvernement Legault nous a habitués à autre chose dans le passé, notamment avec des baisses d'impôts. Oui. Mais peut-être justement que le gouvernement Legault paie aujourd'hui cette générosité qui a été beaucoup trop grande, à mon avis, là, dans les un peu après la pandémie.
OK, Pierre-Yves, je veux t'entendre sur les compressions de l'État à venir. Tu l'as dit, là, ça va venir. J'ai posé la question à Louis Lacroix tantôt, qui couvre depuis un quart de siècle l'Assemblée nationale. Es-tu déjà arrivé qu'il y a eu un réel exercice de révision des dépenses, puis ça, on a plus d'affaires là, ça, on va réduire un peu, et que ce soit efficace?
Ben, efficacité, c'est une autre affaire, mais au niveau de la révision des dépenses, je me souviens, moi, quand Paul Martin et Lucien Bouchard sont arrivés avec le fameux virage ambulatoire et tout ça, on avait compressé vitesse grand V. Au fédéral, on avait coupé dans les transferts aux provinces. Au niveau du Québec, on avait coupé en disant déficit zéro. Donc, c'est déjà arrivé qu'on a fait un exercice de grande austérité.
Parce qu'on se faisait quasiment décoter, justement.
Ben, oui, et puis aussi, faut pas que tu oublies, après ça, quand le gouvernement libéral est arrivé avec M. Létard, on avait aussi fait une compression pour ramener ce ratio dette sur PIB là, à des ratios qui ont de l'allure. Mais quand tu regardes 2024-2025, l'anticipation des taux cibles à un jour du gouvernement, les bons du trésor, les obligations, le gouvernement est conscient que le coût de la dette va continuer à être élevé pour un bout au niveau des taux. Et donc, on se dit, il faut qu'on diminue nos dépenses pour pas qu'on augmente trop la dette et qu'on vienne pas surpondérer cette charge-là. Mais malgré tout, on dit... Le bateau, on l'oriente, santé, éducation. Santé, 4,2% d'augmentation des dépenses. Éducation, 9%. Puis on vient nous dire, dans le fond, écoutez, là, les profs ont fait la grève, on a eu la pandémie, nos jeunes sont décrocheurs, il faut qu'on mette de l'argent. Mais est-ce que l'argent suffit, comme en construction de logement, quand de toute façon, t'as pas les ressources?
Parle-moi d'éducation, Philippe.
Ben, en éducation, c'est une hausse appréciable, 9,3% là,
sur 5 ans. C'est plus que ce que réclamaient les syndicats à 7%.
C'est 819 millions. Bien sûr, tout ça est notamment réalisable. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec a sauvé beaucoup d'argent pendant la grève. Hein? Pendant la grève des profs, là, il y a beaucoup de salaires qui n'ont pas été payés. Donc, cet argent-là, on le relance dans le système. On le relance de deux façons, en payant naturellement les hausses de salaires qui ont été consenties aux profs, mais aussi en voulant cibler un certain nombre d'engagements que je pense que tous les Québécois vont être d'accord avec ça. Bon, d'abord, essayer de faire en sorte que nos enfants reprennent, qu'on réussisse le rattrapage scolaire. On sait que beaucoup d'enfants ont été touchés là par ce très mauvais double jeu. D'abord la pandémie, ensuite la grève pour un bon nombre d'entre eux. On veut aussi favoriser le club des petits déjeuners. Et ça, c'est tellement important. On en a peut-être pas assez parlé, mais pendant que les écoles étaient fermées, il y a des enfants là qui ont moins mangé puis qui n'ont pas eu un bon premier repas dans la journée. On veut aussi, et ça aussi je pense que c'est louable, essayer d'entreprendre des travaux de modernisation des écoles. Là, il y a une somme de 100 millions de dollars là, qui a été identifiée pour essayer de réparer le parc immobilier des écoles. Alors tout ça, c'est de bonnes nouvelles. Je pense que on peut peut-être, là, sur le plan de l'éducation, dire le gouvernement s'en va dans une direction qui est intéressante. On pense aussi aux profs suppléants. Ça aussi, c'est une idée qui est bonne. Des profs suppléants qui ont peut-être pas assez d'heures parfois, ben, on va essayer d'arranger ça pour que ça soit plus payant pour eux autres de travailler. Alors, du côté de l'éducation, je pense que c'est fait. Maintenant, en santé, qui est l'autre gros axe que le gouvernement Legault priorise, là, le ministre Girard l'a dit dès le début, c'est santé et éducation, c'est ça mes deux axes. En santé, il y a une portion qu'il peut faire, là, bien sûr, avec une hausse de 4,2%. Mais l'autre côté qui va être tellement important pour la santé, c'est le projet de Christian Dubé. Qu'est-ce qui va arriver avec Santé Québec? Est-ce que ça va fonctionner, cette histoire-là? Est-ce que ça va donner les résultats attendus? Est-ce que la Top Gun de Santé Québec va réussir à mettre le train solidement sur les rails et à éviter et corriger tous les problèmes de notre système de santé? Le gros défi, il est là.
Il y a beaucoup de si. Tu parles de Santé Québec, Pierre-Yves me parle des prévisions hypothétiques des taux d'intérêt. Il y a beaucoup de si qui vont entrer en ligne de compte. Pierre-Yves, parle-moi de mesures précises. Ça fait longtemps à cette antenne que tu nous dis que l'aide, la subvention aux acheteurs de voitures électriques, ça devrait passer à la trappe. Ben, ça s'en vient.
Ça s'en vient au Québec. On avait commencé déjà. Faut se dire que la demande est plus grande que l'offre au niveau des voitures électriques. Et donc, il y a plus de gens qui sont prêts à payer présentement que ce qu'on est capable de fournir. Donc, le gouvernement se dit, pourquoi je paierais pour une mesure où les gens paient de toute façon? Mais ça va cracher le monde chez les concessionnaires demain, là. Parce que d'ici la fin de l'année, faut que tu aies acheté ton véhicule. Autre chose, les travailleurs d'expérience. On a dit finalement, là, aider avec un crédit d'impôt des personnes à rester sur le marché du travail après 60 ans. On se rend compte que la mesure est inefficace. Donc, pourquoi payer dans le beurre? Ça fonctionne pas. Aussi, je trouve ça intéressant, l'affaire sur l'invalidité. Quand une personne arrivait à 65 ans, se faisait couper un peu le niveau de revenu qu'il y avait quand elle était invalide. invalide. Alors que quand t'es invalide, c'est pas juste le fait d'arriver à la retraite, le problème, c'est que t'as besoin de soins. Et donc, on a un presque 6 000 $ de plus par personne invalide dans.
Ça, ça fait une grosse différence, ces gens-là qui ont pas des gros revenus.
Une méchante différence parce que t'as aussi pas d'autonomie. Mm-hmm. Et c'est là la grande affaire. Mais moi, ce qui me fascine, Patrick, c'est de voir que. Puis là, je suis pas l'économiste qui a préparé les chiffres du gouvernement, mais on prévoit une baisse du PIB sur 3 ans au niveau des États-Unis, au niveau mondial, une stagnation. Au Canada, entre 2024-2025, on prévoit une hausse importante. Là, le Québec va-t-il performer à ce niveau-là? C'est ça la vraie question. Mais aussi, on compte sur des transferts fédéraux pour l'année prochaine de près de 30 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. On dépend du transfert.
Oui, on dépend, mais je disais là que notre bonne performance économique des dernières années fait en sorte qu'on a moins de péréquation aussi.
Oui, mais probablement qu'on va travailler très fort pour une rétention. Exemple, le programme d'assurance dentaire. Comment on va compenser le Québec? Les logements. Donc, l'ensemble de l'argent qui se transfère du fédéral, comment ça va être dans le détail? Tu t'annonces sur une page, on va couper dans l'État. 2,9 milliards, on va faire des efforts. Oui, mais comment? On verra. Te souviens-tu de on verra de François Legault? On est dans le on verra, mais on va le faire.
OK, Philippe, tu veux parler d'Hydro-Québec?
Ouais, tout à fait. Puis des sociétés d'État en général, on sait que les revenus dans le dernier exercice financier n'ont pas été au niveau attendu. Et puis ça, c'est compliqué, hein, parce que Hydro-Québec, là, c'est un problème de nature, là. Il n'y a pas eu assez d'eau dans les réservoirs. Pourquoi? En raison des changements climatiques. Est-ce que ça va mieux aller cette année? Est-ce que ça va mieux aller dans un an, dans 2 ans? On ignore la réponse à cette question-là. Donc, je trouve ça problématique. Hydro-Québec a beau faire tous les exercices d'essayer de là, je vais reprendre le nouveau mot à la mode, d'optimiser leurs opérations à la demande du gouvernement Legault.
Il n'y a plus d'austérité, c'est de l'optimisation.
C'est ça, exactement. Ben, regarde, si les réservoirs demeurent en deçà des seuils qu'on espère, ça va continuer de causer des problèmes. Et toute cette adaptabilité au changement climatique, je vois dans le budget, il y a une petite note tout à coup où on dit qu'on va augmenter le budget de la SOPFEU, puis tant mieux, mais c'est quelques millions de dollars. Mais encore une fois, est-ce qu'on est prêt collectivement et est-ce que ce budget nous aide collectivement à enrayer ou à lutter contre une crise comme celle qu'on a vécue l'été dernier, là, quand les feux dans le nord du Québec, ça a été absolument catastrophique, la qualité de l'air qui a été affectée jusque dans le sud de la province, donc ici à Montréal, puis dans tout le bassin du Saint-Laurent. Ça, à mon avis, il y a des zones grises.
Il rebondit là-dessus quand on va avoir besoin d'aider les gens qui vont se faire raser leur maison par le niveau des océans et tout ça, il va y avoir des impacts. Point intéressant aussi sur l'Auto-Québec. Tu sais, l'Auto-Québec vit des vents forts d'en face. Là. On a des compétitions extérieures. Les jeunes ne sont pas aussi attaché à acheter des billets de loterie. Donc, comment on va transformer l'Auto-Québec pour générer plus qu'un milliard par année au gouvernement? Et quand on regarde les crédits d'impôt sur la masse salariale, par exemple, pour aider les entreprises dans le développement numérique, tout ça, ça va être intéressant de voir ça. Parce que dans le passé, quand on a essayé de faire ça, écoute, ça a frappé fort. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sorties au Québec en disant, on est dans le plein emploi, si vous n'arrêtez pas de subventionner les entreprises, tu sais, qui viennent de l'étranger, nous autres, on a de la misère à les garder. On a peut-être une oreille attentive avec ça. Mais présentement, il y a des compressions chez les entreprises de haute technologie. Et si le gouvernement envoie un signal de réduction massive de l'aide, est-ce que les joueurs étrangers vont dire, tu sais, Google, Ubisoft, même si j'ai ici, vont dire, attends une minute, là. Il y a une grande partie de notre modèle d'affaires qui est basé sur la subvention ou l'aide sur la masse salariale. Moi, des fois, je me dis, quand une entreprise arrive à maturité puis que le marché est à maturité, on peut arrêter de pomper du cash là-dedans, mais à quel point ils vont nous menacer avec ça?
Oui, c'est possible, mais d'un autre côté, le gouvernement Legault aura beau jeu de dire, écoutez, ce que Google n'a plus, c'est Nordvolt qui l'a maintenant, parce que les subventions aux entreprises, maintenant, c'est plus dans un autre secteur. On s'en va carrément vers la filière batterie, puis il y a encore un autre 500 millions, je pense, dans le budget qui est consacré à cette filière-là.
Ça, c'est à condition que ça fonctionne. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est on promet, tandis que l'autre secteur, il y a des états financiers pour vrai. Oui. On pourrait avoir un moment donné à regarder les entreprises et dire, OK, on va vous donner des crédits, mais si vous faites du profit ici, ou si vous faites un certain remboursement, si vous générez de la valeur localement, c'est drôle quand même de donner de l'argent à des compagnies étrangères pour créer des emplois, mais quand c'est le temps de prendre les profits, ça s'en va au siège social, c'est sûr qu'on peut être actionnaire ici aussi, mais tu vois à quel point c'est rendu compliqué. On est intégré dans le monde.
Oui, en effet. Et on est intégré dans cette émission. La preuve, vous avez fait une chronique commune, messieurs Quentin et McSween. Merci à vous deux. Salut. C'est intéressant.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Il s'appelle Pascal Justin Boyer et samedi à Radio-Canada va présenter son documentaire, Le dernier Canadien français. Bonjour.
Salut, merci de l'invitation.
Ben c'est un plaisir. Fait que ouais, pas un autre documentaire.
Ben oui, un autre documentaire sur la francophonie canadienne.
Tu te prends pas au sérieux, tu l'annonces dès le départ.
Ben oui, mais c'était le but aussi. On voulait pas se prendre au sérieux. Ça nous donne la latitude de traiter de sujets sérieux, mais de manière légère.
Ben c'est ça. Outre le ton, parce que le ton est quand même très amusant pendant le documentaire. Qu'est-ce que t'avais envie de dire sur le titre de Canadien français?
Ben en fait, c'est que moi, je suis né à Sherbrooke. J'ai grandi à Saint-Hyacinthe. J'ai passé mon adolescence à Ottawa.
Où à Ottawa?
À Ottawa. Ben, j'ai grandi à Orléans, dans l'Est.
À Orléans.
Mais je suis allé au centre-ville à De La Salle.
OK. OK.
Ouais,
parfait.
C'est ça.
T'as grandi en
Pour
banlieue.
Les connaisseurs d'Ottawa.
Oui, j'en suis un.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai deux parties de mon identité qui sont quand même compétitives. Triste jusqu'à un certain point. On a la partie québécoise de laquelle je suis très fier, la partie franco-ontarienne de laquelle je suis très fier aussi. Donc, chercher un terme chapeau, un terme parapluie pour conjuguer ces deux identités-là.
Mais c'est un vieux terme, ça n'existe plus, ça, les Canadiens-Français. Oui.
Mais moi, j'ai trouvé Canadien-Français, j'ai commencé à en parler, puis on m'a dit, mais non, mais tu peux pas, on parle plus de tout ça, parce que, bon, tous les items historiques qui nous incitent à ne plus utiliser
ce terme-là. C'est vrai que ça s'est perdu, en fait, au fil de l'affirmation nationale du Québec.
Exact.
Les Canadiens-Français que nous étions sont devenus des Québécois. Hors Québec, les communautés s'identifient pas comme canadiennes françaises.
Ne s'identifient plus comme canadiennes françaises à cause justement que bon, il y a eu un événement qui s'appelait les États généraux de la langue française dans les années 70 où est-ce que tous les francophones du Canada étaient invités à venir traiter justement des dossiers importants à amener devant les ordres politiques,
vous
etc.
Patrick Lagacé,
et
en accéléré.
Puis, ben ça match le temps où est-ce que le Québec était dans une montée nationaliste, vivait la révolution tranquille, des items que les autres communautés francophones ne vivaient pas à ce moment-là. Et donc, on dit souvent qu'on est rentré canadien-français et on est sorti québécois, franco-ontarien, franco-manitobain, francescois, etc.
De cette conférence-là.
De cette conférence-là. Mais à partir de là, la territorialisation de l'identité, donc d'associer là où on vit avec le fait français, c'était un petit peu artificiel parce que ça a été causé par le fait que le Québec, lui, a décidé de tirer la plug sur ces réunions-là et de dire, regarde, nous autres, on va affirmer notre propre patente. Et puis, ça a comme un petit peu envoyé pâtir les autres francophones. Qui était là.
Mais tu t'es promené pas mal. T'es allé dans un des territoires, t'es allé dans l'Est, dans l'Ouest, t'es allé te promener en Colombie-Britannique aussi. Qu'est-ce que t'as découvert de plus qu'on ne sait pas là, sur la francophonie à l'extérieur du Québec? À part de dire qu'on nous on se prend le nombril du monde ici au Québec.
J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça.
C'est un petit peu évoqué, hein?
Non, j'ai jamais dit ça.
En tout cas, tu le nies pas.
Non, je le nie pas, mais je l'ai jamais dit. Ben la première chose que j'ai découvert, c'est que le Yukon, c'est absolument extraordinaire. Faut absolument y aller si on a la chance. Mais ce que j'ai découvert, c'est sont vraiment des communautés qui sont vibrantes. Souvent, on a l'impression que les francophones à l'extérieur du Québec vivent un petit peu sur le respirateur artificiel. Or, il n'en est rien. C'est sûr que c'est une disponibilité, c'est une réalité qui est complètement différente de la nôtre ici à Montréal, au centre-ville, mais c'est quand même des communautés qui, à leur manière, sont vibrantes d'un point de vue éducationnel, culturel, politique, etc.
Puis ça passe beaucoup par l'école.
Tout à fait.
Puis ce qu'on se rend compte, en regardant le documentaire, c'est que c'est très rare là, d'aller à l'école en français puis de pouvoir poursuivre des études aussi en français. Donc, tu sais, les communautés au travers du Canada, ça va être difficile de garder une certaine pérennité pour maintenir la langue. T'sais. J'ai l'impression que c'est comme un gros poumon artificiel.
Ce qui est gossant, c'est que c'est constamment un combat à recommencer. Il y a de cela quelques années, c'est les parents francophones de la Colombie-Britannique qui traînaient la province jusqu'en Cour suprême. Là, faut quand même se faire l'image. Là, on est allé en cours d'abord, on est allé en appel, on est allé à Cour supérieure, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'est énormément de ressources, énormément de temps.
Pour le droit de quoi?
Pour le droit d'avoir accès à des établissements scolaires similaires à ceux des anglophones. Dans le sens où une école secondaire, pas de gym, ça devrait pas ce pouvoir. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça.
Ah, là, tu m'étonnes. Ça, c'est permis au Canada anglais pour les communautés francophones. I refuse to believe that.
Mais c'est ça, dit-il en anglais. Et là, récemment, c'est les chums du territoire du Nord-Ouest qui sont devant la Cour suprême encore une fois pour affirmer leur droit d'envoyer ce qu'on appelle des ayants droit, donc les gens qui ont le droit d'aller à l'école en français. Je pense que pour conclure sur l'éducation, c'est beaucoup le post-secondaire
universitaire présentement qui retient l'attention.
Il y a on pense une université à Toronto.
Il y en a une qui vient d'ouvrir, elle est en train de faire ses preuves. C'est sûr que, bon, tranquille.
C'est sûr que c'est un embryon.
C'est un embryon, tout à fait. Après ça, tu as la Laurentienne, qui est un endroit mythique de l'Ontario français. C'est là qu'on a levé le premier drapeau franco-ontarien. C'est l'endroit où est-ce que le théâtre du Nouvel Ontario est né, etc., etc., qui ont coupé à peu près 50% de leur programme en français. Ça envoie des drôles de messages. Puis là, je vous parle même pas du campus Saint-Jean en Alberta.
L'Université de Moncton.
Exact.
Pascal Justin Boyer, je t'écoute parler avec passion des communautés francophones hors Québec, OK? Puis pour les avoir côtoyés quand j'habitais à Ottawa, parce que, bon, il y avait les franco-ontariens, mais il y avait des franco-sasquois, il y avait des franco-albertins, des acadiens, évidemment. J'ai adoré les côtoyer. Leur combat est admirable. Mais au-delà de l'anecdote, je veux dire, la francophonie est soluble dans le Canada. Les taux d'assimilation sont épouvantables.
Oui, absolument. On se mentira pas. Je pense que c'est pour ça que le but du documentaire, en fait, c'est de repartir cette conversation par rapport au partenariat entre francophones au Canada. T'sais, dans les années 70, on s'est fait désigner comme des dead dogs, des canards qui allaient mourir.
Par René Lévesque.
On lui enlèvera rien, mais il a quand même dit ça. Ce qui fait en sorte que on dirait
Denise Beaubardier a à peu près la même chose.
Oui, à peu près. Il y a de ça quelques années. Ouais. Bon, 50 ans plus tard, c'est plus vraiment vrai. En tout cas, pour du monde qui allait mourir, on est encore pas mal vivant.
Oui, mais je reviens à ça. Je comprends, là. Il y a toujours des exemples où il y a des gens qui continuent à vivre dans une mer d'anglophones. Mais quand tu regardes les taux d'assimilation réels aujourd'hui, c'est encore... Ça donne le vertige. Je veux dire, mais c'est sûr que ça donne... en français au Canada, c'est extrêmement difficile si t'es pas au Québec.
En fait, même, je vais ajouter à Patrick une question. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'avantage? Pourquoi quelqu'un voudrait vivre en français ailleurs quand c'est bien moins compliqué de vivre en anglais?
Ben, vous êtes en train de souligner, en fait, les raisons pour lesquelles les immigrants francophones décident de quitter les communautés francophones en milieu minoritaire, alors que l'immigration francophone est extrêmement importante à la pérennité du fait français au pays. Il en demeure pas moins que, tu sais, quand on se pose des questions par rapport à l'assimilation des trucs du genre, c'est l'équivalent de dire pourquoi est-ce que les gens qui sont depuis des générations à Ottawa, pourquoi ils déménagent pas à Gatineau, c'est juste de l'autre côté.
Mais à Ottawa, il y a une masse critique. On peut dire ça.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un attachement, émotionnel, de la même manière que la madame pendant le déluge du Saguenay qui voulait pas quitter sa maison, elle avait un attachement envers sa maison.
Ce que tu dis, c'est abandonnez-les pas, puisqu'ils veulent survivre.
Ben, non seulement il y a une volonté de survivre, mais je pense que en se mettant ensemble, non seulement le Québec peut apprendre des communautés francophones en milieu minoritaire, mais nous autres aussi, on peut apprendre, évidemment, du Québec.
Mais est-ce que le Québec se soucie des autres communautés francophones?
Ben, dans un mot très rapide et très sec, non. Mais je pense
mais on fait un peu ce que nous, on reproche à beaucoup d'autres.
Aux Français.
Ouais. Mais on le fait vivre aux francophones à l'extérieur du Québec.
Oui, que ce soit par la discrimination linguistique, tu sais, des fois, de temps en temps, tu sais, on a un accent. Ça fait que là, ben, on a peur de parler en français devant du monde qui parle mieux français que nous, tu sais. Fait qu'il y a définitivement ça, oui.
Non, j'allais te dire, moi, tu sais, les Français qui parlent toujours de notre accent, à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais la même affaire
avec les
Acadiens, par exemple.
Ben oui.
Et c'était pas pour rire, mais j'ai arrêté de parler de l'accent acadien parce que les Français sont tellement fatigants avec notre accent.
Mais pensez aux gars de Radio-Radio, pensez à Lisa Leblanc. Oui. Combien de fois on leur a parlé de leur accent au lieu de parler de leur œuvre? Mais c'est gossant, ça. C'est sûr qu'à un moment donné, à force de se faire parler de notre accent, ben, on se retire, puis on se dit, ils sont juste intéressés par ça.
Pour garder les deux côtés de la médaille, mais il faut qu'ils viennent au Québec pour vivre de leur art, parce qu'en Acadie, c'est difficile.
Mais il y a beaucoup de gens, évidemment, qui déménagent ici. Mais même sur le plan des lois, tu sais, je pense qu'à la fin du documentaire, tu parles avec Jean-François Robert, je vous parlais du projet de loi C-13, tu sais, qui, en fait, exigerait aux gens qui veulent travailler en français dans la fonction publique de pouvoir le faire. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de vœux pieux, puis d'actions qui sont menées.
Ouais. C'est parce qu'on se retrouve dans une situation, encore une fois, où est-ce que c'est vraiment politique. Donc, c'est d'institution à institution. Nous, ce qu'on veut, c'est partir d'une conversation d'individu à individu, puis je pense que c'est là où est-ce qu'on peut gagner.
Pascal Justin Boyer, on va continuer la conversation après la pause à propos de la francophonie canadienne. Ton documentaire passe à Radio-Canada samedi soir.
Tu touches à quoi?
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Le Québec.
15h54, Pascal Justin Boyer est avec nous. Son documentaire va passer, va être diffusé à Radio-Canada samedi soir. Le dernier Canadien-Français. Il y a de la provocation là-dedans.
C'est souvent ça, toi, ben, émission de radio de Canadienne-Française.
Ben, je déconne un peu. Je dis, hey, on a un programme de radio Canadien-Français.
Oui, exactement.
Canadien-Français, y a-t-il des chances que ça revienne dans le vocabulaire?
Aucune chance. C'est quand même un terme qui est lourd dans son historique. Là. Ça réfère à une époque où est-ce que le fait français était extrêmement
subordonné
relié.
Aux Anglais. Ouais.
Ben, subordonné aux Anglais, mais relié à l'Église catholique. Ça rapporte au mythe des deux nations fondatrices, ouais. Donc ça torse un petit peu les Premières Nations du coup. Donc en 2024, non, je peux pas vraiment imaginer que Canadien-Français revient au goût du jour.
Tu l'as fait pour t'amuser, là, ce documentaire-là. On l'entend vraiment. C'est vraiment très drôle, là, la façon dont tu racontes ton histoire ou cette histoire-là. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression que tu pourrais changer les choses avec un documentaire de la sorte?
Je pense que d'abord et avant tout, il n'y a aucun documentaire sur la Terre qui peut prétendre avoir une solution à un problème. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est partir une conversation. Ouais. Et je pense sincèrement qu'on a besoin de partir cette conversation-là. Tu sais, avant la pause, je parlais de repartir le partenariat entre francophones au Canada. Je pense que c'est nécessaire. Ça va commencer par la communication.
Comme quoi, par exemple, quel genre de partenariat on pourrait créer ailleurs avec d'autres communauté francophone?
Ben, tu vois, présentement, le gouvernement du Québec a déployé énormément d'efforts pour faire le sommet des rapprochements des francophonies canadiennes. Bon, c'était prometteur. Je suis certain qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place. Moi, personnellement, en tant que personne sur le plancher des vaches, j'ai pas vu la couleur de ces initiatives-là. Donc, ça demeure très, très institution à institution. Donc, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Moi, n'importe quelle initiative qui est avancée pour favoriser la francophonie, le fait français au Canada, je dis bravo. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il va falloir engager davantage monsieur, madame, tout le monde, puis arrêter de se fier constamment aux institutions parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde dans les institutions, tu sais.
OK, dernière question. Tu as fait, Pascal Justin Boyer, ce documentaire sur la francophonie canadienne. Toi-même, t'étais dans la Franco-Ontarie. Maintenant, t'habites à Montréal. Mm-hmm. C'est pas comme tourner le dos à tes compatriotes?
Je me suis senti comme ça jusqu'à un certain point. Puis c'est pour ça, d'entrée de jeu, j'ai dit c'est difficile de conjuguer une identité québécoise avec l'identité franco-ontarienne. À la fin de la journée, non, parce que je continue à parler d'eux. Je suis présentement au 98.5 devant Pat Lagacé, en train de parler d'eux. Donc non, je pense pas avoir tourné le dos du tout.
C'est 23.